Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Vers un équilibre digital » de la Haute École Léonard de Vinci. Depuis nos studios, je vous accompagne dans cet épisode qui abordera le cyberharcèlement. Nous allons essayer avec mes invités de vous donner des pistes de solutions afin d'adopter de bons gestes et de bonnes pratiques pour un usage sécurisé et responsable des outils numériques qui nous entourent. Installez-vous confortablement et plongez-vous dans le monde passionnant de l'équilibre digital. Aujourd'hui, nous rencontrons Olivier Bogart, expert en cybersécurité, et Kim Balara, psychologue à la Haute École Léonard de Vinci. Bonjour Olivier, bonjour Kim.
Bonjour.
Bonjour Pauline.
Pourriez-vous, Olivier, vous présenter en quelques mots et également présenter aux auditeurs et auditrices le rôle de la FCCU, la Federal Computer Crime Unit, pour laquelle vous travaillez encore jusqu'à très récemment avant de prendre votre pension?
Alors la FCCU, c'est un outil qui va analyser des outils informatiques, évidemment, mais qui va également collaborer avec des enquêteurs qui se trouvent confrontés à, par exemple, des arnaques, etc., de manière à pouvoir, à ce moment-là, essayer de relocaliser les personnes qui sont à l'origine de ces outils. Donc, on va voir effectivement, sur base du réquisitoire du magistrat, que l'équipe va pouvoir, à ce moment-là, analyser, rechercher, essayer de localiser les auteurs en question.
Merci Olivier. Quel était votre rôle au sein de la FCCU?
Alors de mon côté, c'était plus mettre en garde le citoyen par rapport aux tendances. Donc j'étais plus dans la communication pour pouvoir permettre aux gens d'être un peu plus attentifs par rapport aux messages, aux SMS, à tous les outils que les pirates utilisent pour pouvoir les convaincre.
Merci. Kim, pourriez-vous vous présenter en quelques mots et votre rôle au sein de la Haute École Léonard de Vinci?
Je m'appelle Kim Balara et je suis psychologue pour la Haute École Léonard de Vinci. Et donc, je fais partie du service psychosocial où il y a à la fois des assistantes sociales et où je travaille en tant que psychologue où j'accueille les étudiants de manière individuelle, donc à leur demande. Ça peut être des questionnements, un mal-être, une recherche de solutions en interne ou en externe. Donc, par exemple, il m'arrive de réorienter les étudiants vers l'aide à la réussite, le service d'orientation notamment, ou alors en externe, que ce soit vers différents thérapeutes par rapport aux besoins. C'est vraiment l'idée de pouvoir être là en première ligne et accueillir la demande en interne. Les rendez-vous, tant au niveau des assistantes sociales qu'auprès de moi, sont gratuits et confidentiels. Et donc, on se trouve chacune sur... Voilà, il y a une présence sur chaque site, donc à la fois à Louvain-la-Neuve, à Alma et à XL.
Merci. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui dans ce podcast est le cyberharcèlement. Pourriez-vous en donner une définition? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Et où commence finalement le cyberharcèlement?
Donc pour le cyberharcèlement, en fait, il s'agit de recevoir des messages malveillants de manière intentionnelle, donc à travers les écrans, que ce soit son téléphone, son ordinateur, différentes applications. Et il s'agit d'en recevoir vraiment de manière répétée. Et donc des messages de menaces, d'insultes, d'intimidations, moqueries. Et par rapport à cette situation, la personne se sent souvent isolée. Et généralement, elle vit à la fois du cyberharcèlement et du harcèlement dans la vraie vie. L'agresseur, quant à lui, elle est souvent connue de la victime, malgré tout. Elle intervient soit via son nom, ou alors elle utilise un pseudonyme en étant anonyme. Et donc, il peut évidemment s'agir d'une seule personne ou d'un groupe.
Et justement, Kim, à ce titre, on parle de cyberharcèlement, mais on entend aussi d'autres termes comme la cyberintimidation, la cyberviolence. Y a-t-il plusieurs formes ou plusieurs types de cyberviolence ou de cyberharcèlement?
Alors, par rapport à cette thématique, il est intéressant de parler de la classification qui a été mise en place par Nancy Willard par rapport au type de cyberviolence. Donc elle propose 7 différentes catégories. Donc elle parle notamment du flaming, où il s'agit d'un envoi de messages très courts, ils sont extrêmement violents. À l'inverse du harcèlement, où c'est plutôt un envoi répété de messages, qui sont avec un contenu délicat, mais pas aussi violent. Il y a également tout ce qui est le dénigrement, avec une visée de nuire à la personne et à sa réputation. Il y a aussi des techniques d'intimidation, de mise à l'écart, de groupe, de discussion. Il y a aussi tout ce qui concerne l'outing, donc le fait de mettre en avant des éléments de la vie privée d'une personne sans son consentement, et c'est pas uniquement axé sur l'orientation sexuelle, par exemple. Et elle parle aussi du happy slapping. Donc en fait, il s'agit d'une pratique où on va filmer quelqu'un pendant qu'il se fait agresser physiquement, donc il prend une gifle, il est mis au sol, ou des agressions sexuelles, et c'est ensuite publié sur un réseau en vue, évidemment, d'humilier la personne. Et ce que j'ai envie de vous proposer, en plus, c'est de parler de 3 pratiques, notamment le revenge porn, donc qui concerne la diffusion de contenu intime sans le consentement de la personne, quelle qu'en soit l'application ou le réseau sur lequel c'est diffusé. Le slut-shaming, qui concerne en fait stigmatiser des femmes par rapport à un aspect physique qui est jugé non conforme par rapport à des attentes sociétales et du coup où certaines personnes, hommes et femmes, estiment que cette personne ne répond pas à certaines normes et elle peut recevoir du harcèlement suite à ça. Il y a également toute la question du cybercontrôle qui peut exister sous différentes formes, c'est-à-dire demander à quelqu'un d'être joignable non-stop, de demander d'avoir accès à sa géolocalisation, tout ce genre de pratiques, l'utilisation de AirTag et donc avec une dimension qui est quand même très contrôlante par rapport à l'autre via l'utilisation de téléphone à téléphone, d'une application à l'autre. Et concernant le début du cyberharcèlement, je dirais que c'est assez délicat à définir. Le point de départ, déjà, c'est le ressenti de la personne. Tiens, est-ce qu'elle reçoit des messages de style ? À quelle fréquence ? Comment elle se sent, surtout ? Est-ce qu'elle va sentir déjà déprimée ? Elle s'isole ? Elle se met en retrait ? Et vraiment partir, tiens, du ressenti de la personne pour voir est-ce qu'on peut parler ou non de cyberharcèlement et voir quel est le vécu de l'individu qui est concerné.
Merci Kim. De manière pratique, maintenant j'ai identifié que j'étais victime de cyberharcèlement. Olivier, quelles sont les preuves à récolter ?
Donc, toujours essayer de faire des captures d'écran si on est victime de, je vais dire, de ce harcèlement. Alors évidemment, avec les captures d'écran, on peut aller porter plainte et montrer à l'inspecteur qui vous reçoit, par exemple, dans la zone de police de votre domicile. On peut voir à ce moment-là les documents et il peut, au niveau du PV qu'il va rédiger, avoir des détails précis. Mais comme je le disais, à ce moment-là, on fait des captures d'écran, on fait un stockage de toute une série d'informations. Qui m'a envoyé ça? Le nom de la personne? Évidemment, si j'ai reçu un appel téléphonique, le numéro de téléphone aussi. Soyons pas naïfs, hein, parce qu'il y a des applications qui permettent de masquer le numéro initial en proposant un autre numéro. Et on a également maintenant des applications qui permettent d'utiliser une voix tierce, et c'est pas la voix officielle de la personne. Donc, on a également la possibilité de signaler les contenus malveillants, parce que maintenant, avec le DSA, le Digital Service Act, quand on est sur un contenu qu'on voit sur notre réseau social, on clique sur les trois petits points et on peut faire « signaler ».
D'accord. Et juste pour revenir sur un terme, vous avez parlé du Digital Service Act. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette législation, est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ?
Alors, le DSA, effectivement, c'est une nouvelle législation européenne qui impose aux développeurs d'applications, par exemple, de détailler avec précision quelles sont les données qui sont collectées à partir de l'utilisation de l'utilisateur. Et donc, on se retrouve là. J'ai fait un test, hein, j'ai été vérifier Facebook. Et donc, Facebook, nom, prénom, orientation sexuelle, conviction politique, conviction religieuse, mais également tout ce qui est lié à votre activité. Si vous faites des achats en ligne, si vous allez dans un magasin, la localisation, les paiements que vous avez faits, tout est collecté. Et donc, on se rend compte qu'à ce moment-là, en fonction des likes qu'on va faire sur les réseaux sociaux, on aura automatiquement, grâce aux algorithmes, des contenus. Donc, j'ai été visiter tel magasin et je reçois des contenus sponsorisés du magasin en question ou d'autres pour des produits que j'ai achetés, parce que tout est connu.
Merci Olivier. Kim, quelles sont les conséquences du cyberharcèlement sur la santé mentale et physique des victimes ?
Alors, concernant les conséquences, ce qui est hyper important de mettre en avant, c'est qu'une personne qui subit du cyberharcèlement va avoir les conséquences un petit peu similaires d'une personne qui vivrait du harcèlement, entre guillemets, dans la vraie vie. Déjà, hyper important, c'est le point de départ. Et donc, la victime, elle va pouvoir vivre différentes choses, avec déjà peut-être un sentiment de solitude, d'isolement, beaucoup de tristesse aussi, avec une perte de confiance en elle. Après, je vais ajouter différents éléments qui correspondraient un peu à un portrait robot, mais ça donne un peu l'étendue de la réalité. Donc, la personne peut aussi souffrir d'anxiété, de dépression. Cela peut aussi impacter son sommeil avec des insomnies, qu'elles soient matinales ou nocturnes. Ça peut paraître paradoxal, mais la personne peut aussi se sentir coupable, en fait, hein, même si elle n'a rien à voir avec la démarche et qu'elle subit l'agression, qu'elle est victime, mais elle peut malheureusement ressentir de la honte, de la culpabilité. Elle peut également être en état de stress post-traumatique et donc avoir des flashbacks, avoir des comportements d'évitement, se sentir isolée, vivre de l'anxiété et être dans un état de hypervigilance, qui est hyper épuisant par rapport au système nerveux. Donc un éventail assez large de conséquences qui peut être possible par rapport à la victime.
Merci. Quel conseil pratique donneriez-vous pour gérer émotionnellement et techniquement une situation de cyberharcèlement dès qu'elle se manifeste ?
Dans un premier temps, je dirais que ça peut être important d'en parler à ses proches pour pas rester seul en fait face à ce qu'on vit, parce qu'au moins on peut avoir une certaine prise de recul en entendant, tiens, qu'est-ce que mes proches pensent et comment ils le vivent eux quand je leur raconte ce qui se passe pour moi. Et au niveau du cyberharcèlement en tant que tel, je crois que c'est important dans un premier temps d'aller voir l'application où ça se passe, si possible éviter de répondre si ça paraît juste pour la personne. Hein. Le point de départ, c'est toujours le ressenti de la personne. Éventuellement, si c'est trop dur, prendre du recul, mais uniquement si c'est juste pour soi. Signaler le contenu, garder des preuves et éventuellement faire une trame avec tous les faits si vous décidez de porter plainte et de signaler sur certaines plateformes en fonction du contenu du harcèlement. Parce que par exemple, si c'est lié à une discrimination, vous pourriez faire un signalement à UNIA, ou s'il s'agit plutôt de cyberviolence liée au genre, vous pourriez faire un signalement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Donc, je dirais que c'est intéressant d'avoir une espèce de feuille de route où on décrit tous les faits qui se sont passés. Tel jour, il s'est passé ça, j'ai reçu ça, pour éventuellement faire des signalements ou porter plainte auprès de la police. Et concernant les signalements, vous pourriez très bien faire appel à UNIA, donc l'Institut public indépendant qui lutte contre la discrimination en Belgique, ou alors éventuellement l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, donc quand il s'agit de contenu lié à la cyberviolence de genre. Donc vraiment, être à l'écoute de soi et de ses besoins, et de voir, tiens, est-ce que j'ai besoin d'aide supplémentaire ? Est-ce que j'ai besoin d'être entendu par rapport à ce que je traverse, au-delà des différentes solutions très pratico-pratiques par rapport au réseau sur lequel ça se trouve ?
Donc, si je pense qu'un proche est victime de cyberharcèlement, comment lui en parler ? Comment intervenir ? Est-ce que finalement, je dois intervenir ?
Alors, en tant que témoin, donc d'un proche qui vivrait du cyberharcèlement, la première chose à faire, c'est d'être présent pour l'autre, de pouvoir être là s'il a besoin de parler, de pouvoir être là si la personne a envie de se changer les idées. C'est vraiment partir, voilà, qu'est-ce que la personne vit et de quoi elle a besoin, plutôt que d'imaginer ce dont elle pourrait avoir besoin. En fait, il faut simplement lui demander et d'être à l'écoute sans apporter des conseils non sollicités et sans dire « Ah tiens, moi je ferais ça à ta place ». Éventuellement, si la personne demande une aide dans des démarches, pourquoi pas l'aider ? Et vraiment, essayer de lui dire « Je suis là pour toi, que tu aies besoin de te changer les idées » ou que tu aies besoin de parler de ce qui t'arrive. C'est finalement assez basique, mais je crois que c'est le point de départ, l'écoute de l'autre.
Merci Kim. Donc on vient de parler de, finalement, est-ce qu'on doit intervenir si un proche est victime de cyberharcèlement. Je voulais revenir avec vous, Olivier, sur la collecte de preuves, le dépôt de plainte et les peines encourues. Lorsque j'ai collecté, on l'a vu tout à l'heure, en tant que victime, toutes ces données, toutes ces preuves, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je me rends à un commissariat de police ? Est-ce que je dépose plainte ?
On peut déposer plainte à ce moment-là, oui, effectivement, parce que la législation liée au cyberharcèlement a été modifiée et, comme je le disais, donc à partir du moment où j'ai les détails de la personne qui me harcèle en permanence, eh bien là, le juge qui va recevoir le dossier, il va pouvoir orienter en fonction de la législation, convoquer la personne en question et là, la sanction risque d'être lourde.
D'accord, et je prends le cas de la Belgique. Quelles sont les peines encourues en Belgique en cas de cyberharcèlement par le cyberharceleur ?
Vous voulez dire les peines de prison ? Ça dépend évidemment de l'analyse du dossier par le magistrat qui va évidemment regarder, qui va s'orienter vers la législation et voir quel âge a la personne, quel type de victime sont concernés, etc. Et donc là, il va adapter. Et donc, si l'auteur est un mineur de plus de 13 ans et que la victime a moins de 15 ans, ben, c'est 18 mois de prison et 7 500 d'amende. Si l'auteur, par exemple, est majeur, il risque 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. C'est un petit peu à détailler en fonction de l'âge de la victime, de l'âge de l'auteur, etc.
Merci Olivier. Et Kim, quels sont les moyens de prévention mis en œuvre aujourd'hui concernant le cyberharcèlement ?
Alors, il y a 3 niveaux de prévention par rapport au cyberharcèlement. Il y a tout d'abord tout ce qui concerne l'éducation aux médias, et donc qui concerne tout ce qui peut être apprentissage d'un usage raisonné du numérique au sens large. Donc on peut parler de médias animation, du conseil d'éducation supérieure aux médias. On peut également parler de la formation de professionnels, ou finalement, et donc professionnels, ça peut être des éducateurs, des assistants sociaux, des psychologues, des enseignants au sens très large, et de dire, tiens, quand j'ai une victime de cyberharcèlement, qu'est-ce que je peux faire avec elle et comment est-ce que je peux l'aider ? Donc, ce qui existe en Belgique, c'est notamment beaucoup axé sur un public très jeune, hein, donc par rapport à l'enseignement secondaire. Et donc, j'ai aussi envie de vous parler de Child Focus, qui est un organisme public qui est notamment impliqué dans la sécurité en ligne et qui permet donc d'avoir un usage sûr et responsable d'Internet, donc notamment pour les enfants et les adolescents. Je pourrais aussi vous parler donc de différentes structures comme InforJeunes, qui peut informer les jeunes par rapport à différentes thématiques, dont le cyberharcèlement. Et concernant la formation des professionnels, je donne juste un exemple, il y a par exemple la SBL Loupiote qui peut proposer voilà, une formation spécifique sur ce domaine-là. Donc en fait, en Belgique, il existe une grande étendue de structures qui interviennent dans la prévention. À ce sujet, il y a aussi le réseau prévention harcèlement, qui est un espèce d'annuaire avec un grand nombre de partenaires. Et dans cet annuaire, on peut sélectionner la thématique du cyberharcèlement et donc avoir un listing quand même assez important de structures publics ou privés, qui existent et qui sont impliqués dans la prévention du cyberharcèlement en Belgique.
Olivier et Kim, une dernière chose que vous souhaiteriez ajouter sur les outils numériques de manière générale, sur la santé mentale? Un dernier conseil à communiquer aux utilisateurs et utilisatrices sur cette thématique du cyberharcèlement?
Alors moi je dis toujours, il faut prendre un peu de recul. Au moment où on reçoit des messages, au moment où on voit des commentaires, on prend un peu de recul et on fait des vérifications. Si on ne fait pas de vérification, eh bien là, on risque de tomber dans le piège. Donc, c'est toujours être attentif et toujours faire en sorte que, bon, ben, au niveau de mes outils, comme je le disais, confidentialité maximum, et puis essayer d'identifier le harceleur, justement. Dans certains cas, face aux messages insultants, il peut être utile de réagir rapidement. On prend conseil avec un ami ou un adulte pour que ce soit plus efficace, évidemment.
Donc j'aimerais rebondir sur ce qu'Olivier a dit donc, par rapport aux peines de prison pour les cyberharceleurs. Je pense que dans un premier temps, penser que la victime, voilà, elle subit le comportement du cyberharceleur et donc même si elle peut ressentir une certaine culpabilité, la responsabilité, elle n'est pas chez elle. La responsabilité, elle se trouve donc dans les actes et les choix que fait le cyberharceleur. Peut-être qu'on s'inquiète, ou en tout cas, on ne s'intéresse pas suffisamment à ce que peuvent vivre les cyberharceleurs. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils vivent eux-mêmes dans leur sphère familiale ou autre? Dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un déplacement qu'eux-mêmes pourraient vivre du harcèlement, entre guillemets, qui déplace le problème sur quelqu'un d'autre, en se défoulant sur quelqu'un? Bien se rappeler la responsabilité chez cette personne et se dire, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Parce que si on s'occupe uniquement des victimes, bah c'est une prise en charge qui n'est pas complète. On oublie les personnes qui sont responsables, en tout cas du point de départ et de cette dynamique de harcèlement. Et donc d'avoir donc une vision d'ensemble sur ce qui se passe, de prendre ensemble le système et de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et aussi, un autre élément, c'est si on se sent mal par rapport à ce qui se passe, pensez à en parler à vos proches pour pas rester seul avec ça, parce que c'est très difficile et si vous pouvez au moins bénéficier d'une écoute bienveillante, ça peut au moins un petit peu calmer les choses et vous sentir moins seul dans ce que vous vivez.
Merci Monsieur Bogart, merci Madame Ballara d'avoir participé à cet épisode du podcast Vers un équilibre digital proposé par la cellule Transition et le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir exploré avec nous des solutions pour tendre à l'équilibre. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.